Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast. Tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui, Abdel Raouf Dafri est notre invité à l'occasion de la sortie en salle de son premier long-métrage, « Qu'un sang impur, trois points de suspension ». Et avec ce film, la guerre d'Algérie revient sur les écrans français.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Abdel Raouf Dafri.
Bonjour.
Votre premier long métrage, Qu'un sang impur, sort donc aujourd'hui, mercredi 22 janvier 2020. On va en parler dans un instant, mais il est bon de préciser d'emblée que si votre nom nous est déjà familier, c'est que vous êtes déjà connu. Vous êtes fait connaître en tant que scénariste, notamment pour Un prophète de Jacques Audiard, Les deux Mérines de Jean-François Richer. À la télévision, vous avez créé et écrit la série La Commune et vous avez scénarisé plusieurs saisons de la série Braco. Votre style, dialogue cru, cache, dirait les jeunes, dans les milieux des mafieux, des caïds, des cités, des tolards. Vous avez su réintégrer dans le cinéma français les grands bandits et les petites frappes et leur parler populaire. Il ne manquait plus que les militaires pour compléter cette liste viriliste qui caractérise votre univers. Et ben, les voilà au centre de votre premier film pour le cinéma, sur un terrain miné, la guerre d'Algérie.
J'ai pas l'impression que le terrain soit si miné que ça. Il peut l'être pour ceux qui l'ont réellement connu. D'abord, moi je suis né en 1964, la guerre d'Algérie s'est arrêtée en 1962. Je suis né en France, mes parents ont quitté l'Algérie en 63. Ouais, je suis né à Marseille. Du coup, je n'ai aucune légitimité pour parler de douleur personnelle, pour parler de drame, parce que la famille, les familles, celles de mon père et de ma mère algériennes, n'ont pas eu à subir dans leur chair l'atrocité de la guerre d'Algérie qui a duré 8 ans, c'est-à-dire deux fois la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, c'est important de le signaler. Ça a été très très long, une double guerre civile déjà. Et ce qui m'intéressait en me lançant dans le film, dans cette aventure, c'était de parler de la France, dont le destin, dont le passé, sur 130 ans, est intimement lié à l'histoire de l'Algérie. Et moi, je suis français, je sais totalement qui je suis. Ma culture, elle est pétrie d'auteurs français, de musique noire américaine. Donc, je suis un total produit occidentalisé. Donc, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi le pays de mes parents, l'Algérie, accède à l'indépendance, donc à la liberté, se libère du joug colonialiste, et pourquoi mes parents viennent en 63 à Marseille, en France, alors qu'ils pouvaient se bâtir et construire dans une nouvelle Algérie.
Abdel Raouf Dafri, comment vous avez grandi avec cette histoire? Sur quel récit vous vous êtes appuyé quand vous étiez enfant, adolescent? Est-ce que c'est en parlant à vos parents? Est-ce que vous avez connu cette histoire, cette page de l'histoire française ou franco-algérienne au lycée? Par quel récit vous avez été nourri?
Alors c'est simple, mes parents étaient analphabètes, ils ne savaient ni lire ni écrire. Mon père était un gangster et un truand, c'était une racaille. C'était quelqu'un qui n'était pétri d'aucun sentiment idéologique ou politique, qui s'en foutait royalement. Il avait ses têtes, il aimait bien De Gaulle, il trouvait que Benbella était un peu mou, il pensait que Boumediene était un truand assez intelligent.
Ça, enfin, c'est les deux premiers présidents de l'Algérie indépendante.
Ouais, l'un fera un coup d'État, Boumediene contre l'autre, Benbella. Donc, mon père n'avait pas d'idéologie. Son truc, c'était le pognon. C'est tout ce qui l'intéressait. C'était gagner sa vie, faire bouffer sa famille et faire du fric. C'est tout ce qui l'intéressait.
Mais quand vous étiez enfant, comment il vous a expliqué, vos parents ou votre famille ou ailleurs, comment vous avez senti que vous étiez issu de cette histoire-là aussi?
Ah bah c'est simple, mes parents étaient algériens, ma mère nous disait toujours, l'Algérie c'est le pays de votre père et de votre mère, c'est-à-dire de nous, de vos parents, la France c'est le vôtre, parce que vous êtes né ici et va falloir vous y faire. Plus tard quand vous serez grand, si vous décidez de changer et de vous barrer, vous vous démerdez. Mais dans l'immédiat, vous êtes français. Point barre. On n'a pas eu. Mais en revanche, pour répondre totalement à votre question, il y avait un métier de démarcheur au porte-à-porte, vendeur d'encyclopédie. Et un jour, on a reçu un monsieur à la maison qui était un représentant. Et dans sa collection, il y avait tous les Historia Magazine réunis. Et mon père a acheté les 11 volumes en disant « Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. » Mais il a regardé les photos. Donc, c'était les photos sur la guerre d'Algérie. C'était les Historia Magazine qui étaient reliés en une seule collection de 11 volumes. Et il a dit, si ça t'intéresse, tu peux regarder là-dedans. Comme ça, tu sauras un peu ce que c'est que la guerre d'Algérie. Je m'y suis intéressé, j'ai vu des choses très très intéressantes. Et en grandissant, et en venant dans le monde du cinéma, Je me suis rendu compte, en fait, à travers la mentalité et à travers les expressions de mes compatriotes français, que chez eux, il y avait un vrai problème avec la guerre d'Algérie, ou tout au moins avec le souvenir de cette guerre. Alors qu'en Algérie, et m'était arrivé d'y aller plusieurs fois, les Algériens, c'était du passé. C'était quelque chose d'apaisé. C'est-à-dire, on a réglé le problème, on voulait notre indépendance, on l'a, maintenant on a d'autres problèmes, on va les régler. Il y avait une résilience en Algérie, on peut en discuter plus facilement à Alger avec des Algériens de la guerre d'Algérie qu'en France. C'est plus compliqué. Et je me suis dit, oh là ! Et pour moi, en tant que scénariste, et maintenant, je ne sais pas si on peut m'attribuer ce titre cinéaste, je me suis dit, il y a un territoire pour raconter une histoire, une scénographie comme la guerre d'Algérie. Et comme je suis un grand admirateur des films américains qui ont été consacrés à la guerre du Vietnam, qui est une guerre perdue et qui a été un traumatisme pour l'Amérique, je me suis dit, ce traumatisme qui est la guerre d'Algérie pour la France, je vais mettre les mains dans le cambouis et puis je vais y aller.
C'est ainsi que vous avez réalisé ce premier film en tant que réalisateur pour le cinéma, Qu'un sang impur, qui sort aujourd'hui.
Tout sera fait pour que le peuple algérien ait la parole dans l'apaisement.
Quand on fait de l'armée son métier, on doit mettre son cœur de côté. C'est le prix à payer. De côté.
1960, dans les Aurès, le colonel Paul Breitner est complètement ravagé par la guerre d'Indochine et contraint d'accepter une étrange mission en Algérie. Et là, on est en pleine guerre. La guerre fait rage, redistribue les cartes, n'épargne ni les frères d'armes d'hier, ni les frères de religion. Votre film est très fort dans le sens, il est très violent, Abdelraouf Dafri.
C'est marrant parce que ça c'est une, je comprends, hein, mais c'est la preuve que la société française est plus apaisée qu'on ne le croit, parce que si mon film est violent, que dire de Platoon, que dire d'Apocalypse Now, que dire de Voyage au bout de l'enfer?
Autant de références qui sont très présentes dans votre manière de filmer la guerre d'Algérie, on a l'impression.
Oui, oui, moi c'est des films qui m'ont marqué. Il n'y a pas que ça, il y a Les 12 salopards de Robert Aldrich, il y a le cinéma de Samuel Fuller, mais c'est vrai que la guerre d'Algérie était très 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 violente. Alors maintenant, si on s'attendait à un pensum psychologique avec des gens qui dialoguent au fond d'une pièce sur le drame, et non, c'est pas. Moi, je mets les mains dans le cambouis, je montre, mais je ne démontre pas. C'est-à-dire que je ne filme pas la violence plein champ. Je m'arrange pour qu'il y ait une tension qui soit exercée sur le spectateur pendant 1h49. Je veux qu'il y ait un inconfort chez le spectateur, d'où la mise en scène. Et au niveau de la violence, on ne peut pas dire, j'ai revu Platoon d'Oliver Stone, qui est un film magnifique, il n'y a pas longtemps. Il y a 3 fois plus de violence dans Platoon, même voire 5 fois, que dans mon film. Mmh. Et pourtant, l'argument de la violence, et j'ai lu la presse de l'époque quand le film est sorti en salle, personne ne dit par exemple à Martin Scorsese, votre film est trop violent. Personne ne dit à Oliver Stone ou à Francis Ford Coppola, vos films sont violents. Mais quand un metteur en scène français le dit, et ce n'est pas un reproche que je vous fais, on lui parle tout de suite de la violence. La guerre d'Algérie a été une barbarie. Et je vais vous dire un truc. Et barbarie en lettres majuscules, des deux côtés. Je peux vous dire que quand vous voyez les images d'archives, et je les ai vues, les images d'archives, il y a des gens qui sont dans un très très sale état. Et je suis en dessous de la violence réelle des images d'archives qui ont été rapportées à l'époque et qu'on peut trouver n'importe où, sur le web ou même aux archives militaires. Je suis vraiment en dessous. Ce que je voulais, c'était créer un inconfort pendant 1h49 pour le spectateur. Cet inconfort-là est un respect dû aux jeunes appelés français qui ont passé 27 mois la trouille au ventre et qui pour la plupart sont revenus alcooliques et dans un état dépressif. Des jeunes qui n'avaient rien demandé et qu'on a envoyés là-bas sans leur dire qu'ils allaient faire la guerre. On leur a dit « T'inquiète, c'est des opérations de maintien de l'ordre, du contrôle d'identité, que du basique, rien de dangereux. » Les types sont tous revenus fracassés et mon film leur rend hommage. autant qu'au peuple algérien qui a souffert de cette guerre.
Parlons de l'histoire, de la trame de votre film, 1500 impurs, 3 points de suspension, Abdelraouf Dafri, c'est quand même des personnages qui vont, un groupe de personnes qui va découvrir l'Algérie en guerre. Ce sont pas les protagonistes que vous mettez en vedette.
Oui, toujours dans ce rapport avec le fait que je voulais que les personnages principaux, à savoir le colonel Bretner, qui est un rescapé de l'Indochine, qui est devenu alcoolique, et qu'on envoie en Algérie alors qu'il a déjà connu le merdier bridé, comme lui dit un des personnages, qui lui dit qui a fait l'Indochine comme lui, il lui dit le merdier basané est pire que le merdier bridé. Et Bretner lui dit pire que l'Indochine, comment c'est possible? Parce que la guerre d'Algérie a été pire que l'Indochine. Il faut le savoir, de mémoire de vétérans des deux côtés, ça a été pire. Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ont rejoint les maquis du FLN, qui étaient des supplétifs actifs au sein de l'armée française durant la guerre d'Indochine. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, je voulais que ce type qui s'est mal remis, qui est en état de syndrome post-traumatique après l'Indochine, débarque en Algérie et pour lui c'est une culture complètement différente. Il arrive avec une jeune mongue qui était son pisteur pendant dans les commandos Nord-Vietnam et tous les deux sont sidérés. Il y a cet effet de sidération et ils ont du mal à se mettre d'abord à la chaleur parce que quand on fait la guerre en Indochine c'est humide et chaud. Là c'est chaud, terriblement chaud et sec. Et donc il y a un choc culturel, il y a un choc thermique et il y a une atmosphère de barbarie totale dans un chaos impressionnant et je voulais que ces deux personnages ne soient pas déjà impliqués à l'intérieur. Parce que ceux qui sont déjà impliqués à l'intérieur, ils sont habitués, ils savent où ils sont immunisés, ils sont détachés. Mais d'ailleurs, on le voit avec les militaires de la séquence d'ouverture, eux, ils baignent dedans. Mais je voulais que le personnage soit aussi frais que le public en débarquant là-bas.
Une mission au bout de l'enfer, donc, pour le colonel Bretner.
Oui, il doit se rendre. Alors, en 1960, c'est pour ça que j'ai précisé l'année 1960, c'est l'année au cours de laquelle on est dans un ensauvagement total dans les deux camps. C'est la haine qui domine. La guerre, ce n'est pas la haine. Comme le disait Clausewitz, la guerre, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Donc, ça veut dire que on se tape, on se met sur la gueule et violemment, il y a des morts, mais c'est en vue d'une issue politique pour se remettre autour de la table et discuter et cesser les combats. Là, on n'est même pas dans une logique de cesser les combats. On est dans une logique de c'est le dernier qui est debout, le couteau à la main ou le chargeur encore plein qui a raison. C'est ça la réalité de la guerre d'Algérie en 1960. C'est-à-dire que le FLN est jusqu'au boutiste et l'armée française veut à tout prix éradiquer ces jusqu'au boutistes. Et pour ça, la fin, la pire des fins, justifie tous les moyens. Et c'était, 1960 est une année obscène, parce qu'on est à 2 ans de la fin du conflit, et on s'est déjà mangé 6 ans de guerre. Et 6 ans de guerre, au cours desquels on a vécu la déportation des populations, ce que fera Chal pour assécher, parce que dans la tradition berbère, Chal avait compris que les gars du FLN, les rebelles qui se planquaient dans les Aurès Nemencha ne sortaient que la nuit. Et la tradition berbère veut que l'on offre pas le gîte forcément, mais qu'on offre le couvert et l'eau à celui qui demande. C'est un principe d'hospitalité. Quel que soit son camp, quelqu'un qui est perdu dans les Aurès, il a le droit à avoir ses dattes, à avoir quelque chose à manger. On ne peut pas le laisser crever de faim. Ça ne se fait pas. Et Chal avait compris cette logique berbère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un grand plan de déportation des populations a été lancé. Michel Rocard le dénoncera d'ailleurs dans un rapport qui sera publié par Le Monde. Et ce plan de déportation, à partir du moment où les populations ne sont plus là, comment fait le Felaga pour se sustenter et survivre? Alors que l'armée encercle les Aurès. Cette année-là, il y a, je pense, un peu plus de 30 000 du FLN qui seront tués sur une machine de guerre de 90 000, 100 000 hommes. Et il y en a 20 000 qui seront faits prisonniers, ou 21 000. Et Chal réussit son plan.
Cette histoire, vous la découvrez à quel moment de votre vie, Abdelraouf Dafri?
Je l'avais découvert à travers cette fameuse collection sur la guerre d'Algérie.
Historien, donc.
Ouais, historien, c'était très intéressant.
Bon, vous aviez quel âge? Là, vous étiez jeune.
Oh, j'avais 14, 15. Mmh. C'est pas un truc qui m'a obsédé parce que moi, je suis né à Marseille et j'ai grandi dans le Nord. Mais moi, j'ai grandi avec des Raymond, j'ai grandi avec des Mario, avec des Giovanni. J'ai grandi, en fait, dans le Nord où j'ai grandi, il y avait des Arabes, des Juifs, des Noirs, des Italiens, des Espagnols, des Portugais. il y avait une variété de la société française que je connaissais, bien sûr, les Français que, et je blague quand je dis ça, les Français de dits de souche Astérix, les bons Raymond, les bons Roger, les Patrick. Donc, j'ai grandi dans une France, je dirais pas qu'elle était multiculturelle, en tout cas, elle était, c'était une France, j'ai 55 ans, donc c'était une France des années 70, où je voyais plus de Français que je n'étais pas dans un truc de communautarisme dans mon quartier, à Wattigny, dans cette ville, ce petit village, il n'y avait pas des masses d'arbres, il devait y avoir 2-3 familles. Et du coup, moi, j'ai pas un rapport communautarisé avec la République. J'ai un rapport de républicain, laïque, je suis totalement occidentalisé. Parce que ça a été ma culture, j'ai grandi avec San Antonio, avec Victor Hugo. Moi, Enrico Macias et la Bahdria, ça, c'était le travail de ma mère. Moi, ma musique, c'était la musique noire américaine avec Kool & The Gang, quoi. Donc, j'étais pas pétri particulièrement de société orientale, il n'y avait pas de rapport à la religion parce que mes parents étant analphabètes n'ont jamais lu le Coran, mais ma mère elle avait la religion du charbonnier, celle que ses parents lui avaient communiquée, elle ne faisait pas ses prières mais elle croyait fermement en Dieu, ok, et elle ne nous a jamais éduqués dans un système, il y avait une éducation qui était le système du retour.
Et vis-à-vis de tout ce que vous avez vu de la guerre d'Algérie dans le cinéma français, Abdel Raouf Dafri, vous vous êtes retrouvé, comment vous situez votre film par rapport à tout ce qui a été fait sur la guerre d'Algérie ?
Je vais vous dire très clairement, beaucoup de metteurs en scène français se sont attelés, le plus illustre d'entre eux, qui a fait le film qui a le plus cartonné, et Dieu sait qu'on lui a mis des bâtons dans les roues, c'est Yves Boisset avec R.A.S. Il faut savoir que Yves Boisset pourrait le raconter, en tout cas ça fait partie des livres d'histoire du cinéma. Quand il a voulu se lancer dans R.A.S., il a subi des sabotages, on a tenté, mais vraiment on a attenté à la vie du film plusieurs fois, et les coups fourrés ne manquent pas pour casser la production et la mise en scène d'un film, et Yves Boisset a fini par sortir son film parce que le mec était un acharné, et j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a fait un chef-d'œuvre qui s'appelle Dupont la joie et que je n'oublierai pas. Et donc Yves Boisset a sorti R.A.S. qui a fait, à l'époque quand il est sorti, je crois que c'est en années 70, il a réussi à faire 1 450 000 entrées, je crois, et ça a été un gros succès populaire. Mais et l'autre film à succès a été fait par un Italien, c'est La Bataille d'Alger. Mais le cinéma français, à chaque fois que les metteurs en scène, et c'est des gens pour lesquels j'ai du respect, qui se sont lancés là-dedans, c'était des pamphlets contre la guerre d'Algérie, ce qui est logique, mais c'était des pamphlets dans lesquels on avait surtout le traumatisme de l'homme blanc. On ne voyait pas l'arabe dans ces films-là. Et on voyait surtout le cas de conscience qui était celui des Français à tendance de gauche et communiste, qui étaient traumatisés par la torture. Souvent, ça revenait, tout ça. Et les Arabes n'existaient pas, les Algériens n'existaient pas dans ces films. Dans le mien, on parle arabe, et les personnages arabes existent.
Mais on suit plutôt des personnages qui viennent de France. C'est autour quand même du colonel Bretner que votre film, Qu'un sang impur, nous pénètre dans la guerre d'Algérie. C'est un point de vue.
Oui, alors c'est le point de vue de Bretner, mais depuis la fiction, grâce au boom des séries télé, avant, quand on faisait un film, on ne s'intéressait qu'à un seul point de vue. Ok, John Ford, quand il faisait ses westerns, il y avait le point de vue de John Wayne, mm-hmm. Le personnage principal. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus écrire avec un seul point de vue. Bien sûr, le film démarre et se conclut avec Bretner, mais entre-temps, ce qui est important, c'est que à l'intérieur de ce groupe plutôt hétéroclite, on puisse interroger plusieurs facettes de la guerre à travers ceux qui la font, et pas uniquement Bretner. Moi, j'ai toujours eu un problème avec le principe du leader et de ceux qui suivent. J'aime bien que les films, et les séries télé le permettent, en tout cas les films le permettent moins, qu'il y ait une chorale de points de vue à l'intérieur du groupe. Et on les voit, ces différents individus au sein du groupe, s'exprimer et faire aussi avancer la narration. Mais c'est vrai que le film démarre avec Bretner, dont le nom est celui d'un Belge flamand, donc il n'est pas totalement français, et c'est précisé dans le film, par ses actes de bravoure et par son sang versé, il est devenu français. Un français de papier, comme diraient certains.
Vous ne l'avez pas tourné en Algérie, ce film, 1500 impurs, 3 points de suspension. Est-ce que vous pensez que c'est un film qui pourrait être vu de la même manière en Algérie et en France?
Alors je vais vous dire, on n'a pas tourné en Algérie pour une raison simple, c'est qu'en Algérie, il n'y a pas de technicien valable, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'administration qui permette de tourner dans de bonnes conditions. En clair, le pouvoir actuellement en place, et ce depuis 1962, s'en tape royalement de la culture. Et mon scénario étant ce qu'il est, et montrant les contradictions et la cruauté inhérente au sein de certains militants du FLN, de certains guerriers du FLN, on le voit dans la scène d'introduction, l'armée française n'est pas épargnée par son comportement, on sait pourquoi, l'histoire et les historiens l'ont prouvé, les Algériens, le pouvoir algérien aurait demandé à lire mon scénario et il l'aurait censuré. قد وصل ضدنا صار العداء راية الدماء قد علت راية الدماء قد علت هل تسمعون دروب الأرياف لقاءاتك الجيوش الضاربة.
La Marseillaise chantée en arabe pour votre film. Vous avez donc demandé à Hanna Malhout d'interpréter l'hymne national, mais en arabe, avec une traduction parfaite d'ailleurs. C'est traduit et orchestré par Slam Cheklat.
Slam Cheklat, c'est un Algérien qui vit au Maroc pour pouvoir gagner sa vie, qui est un Algérien qui chaque année va au Hirak et qui était le traducteur et le coach de tous les acteurs sur le plateau. Et c'est un frère. Et Slam est formidable parce que il est un linguiste, mais d'une précision incroyable sur la langue algérienne, parce que j'avais des acteurs marocains, parce que je n'ai pas eu beaucoup de moyens pour faire le film, donc et on faisait gaffe à ce que les Marocains ne parlent pas marocain et qu'ils disent les choses en arabe, parce que je savais que les Algériens
disaient tomberaient dessus. Et la Marseillaise en arabe, pourquoi ?
La question m'a été posée hier, j'ai fait une avant-première c'était à Nice, au pâté de Nice, et il y a une jeune Française d'origine algérienne qui m'a dit j'aurais préféré entendre le Kassaman, qui était l'hymne algérien. Je lui dis, ah oui, mais pour ça, il aurait fallu que je sois algérien. Donc, comme je suis français et d'origine algérienne, j'ai coupé la part en deux. La Marseillaise, mais en arabe. C'est aussi simple que ça.
Cassant impur avec 3 points de suspension sort aujourd'hui. Merci Abdel Raouf d'Avry. Reste avec nous. Nous avons au bout du fil Michel Simon du magazine Positif. Bonjour Michel.
Bonjour Toufik.
Alors, vous l'avez pas vu, qu'un sang impur de notre invité ce matin, mais vous avez un coup de cœur et un coup de gueule à partager avec nous.
Bonjour Toufik.
S'il fallait parler d'abord de votre coup de cœur ce mois-ci.
Alors, le coup de cœur, c'est un film chinois qui est sorti en janvier, qui s'appelle « Séjour dans les monts Fuchun » de Gu Xiaogang. D'ailleurs, ça donne l'occasion à Positif de faire un dossier sur le cinéma chinois et en particulier tous les grands films chinois qui sont sortis cette année.
Comme le lac aux oies sauvages.
Oui, le lac aux oies sauvages, Les Éternels, An Elephant Sitting Still. Enfin, c'est une explosion de talents, dont des nouveaux talents, puisque le metteur en scène Gu Xiaogang a réalisé ce film quand il avait 26 ans. C'est son premier film. Et c'est un film qui combine deux aspects tout à fait passionnants. D'une part, une vue sociologique des transformations considérables de la Chine et des villes et des paysages chinois. Et d'autre part, l'histoire que les Orientaux aiment raconter, qui est l'histoire d'une famille, d'une grand-mère qui va mourir, accompagnée de ses 3 fils. Et donc, c'est une réflexion, évidemment, sur la famille traditionnelle chinoise. Et troisièmement, c'est également une référence à un rouleau de peinture très célèbre du XVIe siècle, qui s'appelle justement « Les séjours dans les monts Fuchun ». Donc l'écran panoramique correspond à ces tableaux magnifiques des collections chinoises. Voilà, donc c'est un film d'une grande complexité, d'une grande richesse, et qu'il faut recommander à tout le monde. Et vraiment, c'est un chef-d'œuvre.
Alors,
et
je rappelle le titre du film,
Séjour dans les monts Fuchun de Gu Xiaogang. Et puis, le film qui m'a beaucoup déçu, même s'il a une presse exceptionnellement favorable, c'est le film de Jeanne Balibar, qui est une sorte de farce politique et une comédie du remariage à Montfermeil. Et là, on peut dire que Jeanne Balibar n'a pas compris qu'un film burlesque nécessitait une intense préparation, que c'est vraiment plus proche de la balistique que de l'improvisation. comme tous les grands burlesques l'ont fait, de Lubitsch à Howard Hawks ou au Marx Brothers. Tout ça doit être écrit, pensé, réfléchi, construit, et le film est en fait une série de gags plus ou moins réussis, mais qui sont très amateurs. On est vraiment à Saint-Germain-des-Prés plutôt qu'à Montfermeil.
Merci beaucoup Michel Simon. Je rappelle que dans le dernier numéro de Positif, la revue de cinéma que vous dirigez, un grand dossier sur la créativité du cinéma chinois.
Et un chef-d'œuvre qui est Les filles du Dr Marsh, qui est un magnifique comédie américaine, elle brillante et extraordinairement construite et interprétée.
Merci beaucoup Michel. Bonne journée, on se retrouve bientôt.
À bientôt, au revoir Toufik.
Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, ce matin à la prise de son Jean-Guy Lermège. Bonne journée sur France Culture, je vous retrouve demain à la même heure.